J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Aléa. La semaine dernière, nous avons entamé une excursion dans l'histoire des joueurs artificiels. Nous avons vu que ces programmes informatiques destinés à jouer à des jeux de stratégie combinatoire comme les échecs pouvaient nous renseigner par un jeu de miroir sur la manière dont les êtres humains raisonnent, sur nos propres capacités cognitives. Créer un joueur d'échecs artificiel pour comprendre comment nous jouons nous-mêmes. Nous avons commencé par vous parler de l'algorithme du minimax. Cet algorithme consiste, par le simple calcul, à prévoir ses coûts à l'avance pour définir une stratégie optimale, une stratégie de jeu qui mène, en théorie, à la meilleure issue possible. Mais nous avons également vu que cet algorithme, qui nécessite d'évaluer l'intégralité de l'arbre de tous les coûts possibles, était en pratique inutilisable. Le nombre de situations possibles aux échecs dépasse de loin l'entendement humain, mais aussi la capacité de calcul des machines. Pour vous donner une idée, Deep Blue, le programme qui a battu Kasparov en 1997, pouvait évaluer 200 millions de situations par seconde. Mais si chaque atome de l'univers avait cette puissance de calcul, il leur faudrait collectivement un milliard de milliards d'années avant de déplacer le premier pion. Il nous faut donc trouver une approche plus subtile, qui ne repose pas seulement sur le calcul, mais qui prend également en compte l'expérience du jeu, ces connaissances plus contextuelles qui nous permettent de diriger nos efforts sur les branches de l'arbre qui valent vraiment le coup. En effet, le calcul est un mode de raisonnement qui intervient dans nos choix tactiques, c'est-à-dire nos choix à court terme, sur quelques coups. Mais pour les décisions stratégiques qui ont des répercussions sur l'intégralité de la partie, nous faisons appel à un raisonnement d'un autre genre. Contrairement à un joueur d'échecs artificiel, un joueur humain est capable, lors de son calcul, d'évaluer les situations de l'échiquier en faisant appel à une connaissance empirique du jeu. Une méthode classique consiste, par exemple, à échanger des pièces avec l'adversaire seulement lorsque cela conduit à ce qu'on appelle un avantage matériel. Perdre un fou pour prendre une tour, perdre une tour pour prendre une dame, sacrifier une pièce pour empêcher le roi adverse de roquer. Toutes ces décisions ne sont pas optimales à coup sûr, mais elles conduisent par expérience à des situations de jeu favorables. On ne parle plus de stratégie optimale, mais d'une heuristique, c'est-à-dire une stratégie approximative mais informée, permettant de simplifier le calcul sur la base de notre expérience. Pas la peine d'aller plus loin dans le calcul, on sait que ces coûts sont intéressants. Une manière classique de formaliser cette notion d'avantage matériel afin de l'implémenter dans un programme informatique est de donner des valeurs numériques aux différentes pièces. Selon le barème utilisé, un cavalier peut valoir 3, une tour 5, la dame 9, etc. Lors du calcul, une suite de coups après laquelle l'adversaire a perdu plus que ce que nous avons perdu nous-mêmes est donc considérée comme une option de jeu favorable. Cela dit, un simple barème ne peut suffire à décrire toute la complexité d'une situation. Il faudrait aussi prendre en compte la position relative des pièces sur l'échiquier, un cavalier au centre vaut plus qu'un cavalier en bord de plateau, ainsi que des motifs relativement complexes tels que le clouage, où une pièce adverse ne peut se déplacer sans mettre en danger une pièce de plus forte valeur qui se situe derrière elle, jusqu'à des considérations stratégiques à très long terme, comme la valeur des pions qui se situe devant le roi une fois que celui-ci a roqué. Il s'agit donc de décrire, puis de formaliser, une fonction d'évaluation. Une fonction capable de donner une valeur numérique à une situation de jeu en prenant en compte toute sa complexité. La fonction d'évaluation de Deep Blue était composée de pas moins de 8000 modules différents, intégrant chacun plusieurs paramètres permettant d'ajuster la valeur des pièces pour les échanges, en fonction de leur position sur l'échiquier pour le contrôle du centre par exemple, de leur position relative pour qu'elles interagissent de manière efficace, en fonction également de l'état du jeu, est-ce que le roi adverse a roqué ou non, et même du style de jeu de l'adversaire. Ces différents modules ont été réalisés par des informaticiens, mais également par des experts du jeu d'échecs, afin de formaliser leurs propres connaissances, leurs propres fonctions d'évaluation. L'intelligence artificielle était, dans les années 50, très optimiste quant à la réalisation de joueurs artificiels. Certains chercheurs anticipaient même qu'un programme serait capable de battre le champion du monde dès les années 70. Cet optimisme venait notamment de nouveaux modèles de fonctionnement du cerveau qui donnèrent d'ailleurs naissance dans les années 60 aux premières sciences cognitives. Avec les débuts de l'informatique, on se mit en effet à utiliser l'analogie suivante. L'esprit est au cerveau ce que le programme est à l'ordinateur. En d'autres termes, les capacités cognitives des êtres humains seraient, selon cette théorie, de la même nature que les programmes informatiques, une manipulation de symboles suivant les règles de la logique. Ces capacités pourraient donc, en principe, être reproduites à toute machine capable de manipuler des symboles, et notamment par les ordinateurs, justifiant ainsi la formalisation des connaissances expertes au sein des programmes informatiques. Il suffisait d'expliciter notre connaissance pour la rendre accessible à l'ordinateur. Mais c'est justement ici que l'intelligence artificielle a rencontré de très grandes difficultés. L'explicitation de ses connaissances expertes n'allait pas de soi, même dans le cas des jeux de stratégie combinatoire comme les échecs, qui paraissaient pourtant ne faire intervenir que des connaissances symboliques, des raisonnements logiques. Nous verrons ainsi la semaine prochaine comment l'intelligence artificielle et les sciences cognitives ont dû, pour surmonter leurs premières difficultés, remettre en cause leur modèle de la cognition. Comment les premiers échecs des joueurs artificiels ont conduit à reconsidérer la manière dont notre cerveau fonctionne.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus.